des champions de la tech française comme vous ne les avez jamais entendus, animé par Olivier Mathieu, Thomas Benzazon et Solène Etienne.
Depuis au moins un épisode, je lance toujours 40 nuances de Next avec un poème, Le vieux piano. Dans un coin de la chambre, abandonné, oublié, se tient un vieux piano, autrefois tant aimé. Ses touchés, autrefois, dansaient sous des doigts agiles, mais désormais, il gît là, seul, dans son exil. Ses cordes fatiguées résonnent encore parfois, rappelant les mélodies d'autrefois. Il a vu tant de jours, tant de joies, tant de peines, et pourtant sa musique reste éternelle et pleine. Il n'est plus ce qu'il était, mais il a sa beauté, comme une vieille âme emplie de sagesse et de bonté. On pourrait le jeter, le remplacer par du neuf, mais son histoire mérite plus que l'indifférence du bœuf. Car dans chaque note, dans chaque soupir, résident les échos d'un passé à réunir. Il est le symbole de la réutilisation d'une seconde vie, d'une nouvelle mission. Alors ne méprisez pas ce qui est vieux et usé, car en chaque objet, en chaque chose délaissée, réside une histoire, une beauté à redécouvrir dans le cycle éternel de l'art de réutiliser. Bonjour Johan Valency, tu es le cofondateur de Certidil. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ce poème? J'imagine que tu as vu le lien avec ton activité.
Bravo, pendant longtemps je me suis demandé où on allait. Mais bravo. Oui, bah effectivement, donc, je suis le cofondateur de Certidil. Certidil, on est deux associés, on l'a fondé en fin 2015, début 2016.
Avec Laure.
Avec Laure Cohen. C'est une plateforme basée sur un site internet sur laquelle on peut acheter et revendre. C'est des produits électroniques d'occasion. Aujourd'hui, on appelle ça des produits reconditionnés. Et aujourd'hui, c'est un site internet qui est dans 7 pays en Europe et qui quand même vise principalement les produits, on va dire smartphone, tablette, un petit peu ordinateur et AirPod, et qui est devenu un des leaders, on va dire, un des leaders du secteur.
Alors, pour lancer, parce que mon compère Olivier Mathieu n'est pas là, mais comme toujours, il a fait son travail, tu as évoquer un certain nombre d'éléments qu'il était allé chercher pour son intro. Mais je propose d'ajouter quelques mots d'Olivier après ce jingle. Beach of beach. Beach of beach. Donc effectivement, il le rappelle, hein, Certidil, c'est du reconditionné et certifié dans vos propres ateliers.
Exactement.
Un petit mot côté chiffres, vous avez levé 15 millions d'euros en 2021. Vous avez eu un tour de 8 millions d'euros en 2020, 2 millions en 2017, donc 24 millions d'euros levés en tout. Le marché, c'est aujourd'hui 15% de téléphones vendus en France qui sont reconditionnés. C'est juste
entre 15 et 20.
Ok, ça monte.
Ouais.
Et ça monte pourquoi?
Ça monte pour plusieurs raisons.
C'est question de pouvoir d'achat.
La principale
ou...
raison, on pense que c'est le pouvoir d'achat et c'est aussi la professionnalisation des acteurs. Donc il y a une évangélisation du sujet. C'est devenu la seconde main, de manière générale d'ailleurs, pas que pour le smartphone, est devenu un... Enfin, si on se regarde 15 ans en arrière, acheter d'occasion, c'était un truc de plouc. Où c'était un petit peu un geste honteux, on n'en parlait pas vraiment. Aujourd'hui, tout a changé. Et ce n'est pas que sur le smartphone. Donc, dès qu'on touche sur des produits qui sont chers, sur lesquels on va avoir un certain renouvellement, la seconde main s'impose. Et effectivement, les questions de pouvoir d'achat sont très importantes, mais aussi, il y a aussi l'évolution du luxe en général. Les consommateurs veulent souvent des produits qui sont chers, qui ne peuvent pas forcément, ou ne souhaitent pas forcément payer ce prix-là. Et la seconde main est une alternative parfaite.
Le fait de pas acheter du neuf, c'est aussi un geste citoyen, éco-citoyen pour la planète. On avait à ce micro, juste là où tu es assis il y a quelques semaines, Julien Tchernia d'Équateur, et on avait un peu cette discussion entre fin du mois, fin du monde, et quand on produit, répond a priori aux deux, j'ai le sentiment, comme pour lui, que la notion de fin du mois a plus d'attrait du côté des consommateurs.
C'est sûr. Le sujet numéro un, c'est la partie économique. Après, c'est pas plus mal. Ça veut dire effectivement, on va le dire en anglais, c'est un nice to have, le fait de pouvoir avoir un produit qui en plus répond à une considération écologique forte. En plus, le reconditionner, ce qui est intéressant, c'est que c'est une écologie qui est mondiale. Ça veut dire, lorsque vous achetez un téléphone d'occasion, c'est pas forcément... Vous n'avez pas amélioré l'écosystème français particulièrement, on ne produit pas de téléphone en France. Mais à l'échelle planétaire, vous allez éviter qu'il y ait un téléphone en Chine qui soit produit. On va éviter des ressources rares, on va éviter... Ça va avoir un impact écologique très important. Et donc les consommateurs en sont conscients. Je pense que ça les conforte dans leur idée d'acheter. Après, le nerf de la guerre, c'est l'argent.
Le prix et puis évidemment la qualité. sur ce type de produit, on ne peut pas imaginer que ça ne marche pas, qu'il y ait une touche qui ne fonctionne pas, que ça, bref.
Ça, c'est notre, c'est notre sujet numéro un. Donc, c'est depuis le début, en fait, CertiDeal, ça a été créé afin de pouvoir... Quand on était en 2015-2016, c'était le début du reconditionné. L'acteur numéro un à l'époque, c'était quand même le Bon Coin, en gros, globalement. Et bon, pour le coup, c'est l'enfer. Enfin, c'était énormément de problèmes pour les consommateurs, que ce soit des problèmes de fraude, de téléphones volés, de téléphones qui ne marchent pas. Donc nous, on est arrivé à ce moment-là pour essayer d'amener une brique de certification qu'on a conservée en fait, jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, notre vraie différenciation, c'est qu'on fait tout nous-mêmes.
Alors, je vais aller sur le marché, la concurrence. Je sais qu'Olivier voulait aussi y revenir. Je fais juste un gros flashback au tout début de l'aventure. J'ai scrollé votre site internet et je vous cite donc l'aventure CertiDeal, spécialiste du reconditionnement, a commencé en 2015 lorsque les fondateurs, en l'occurrence toi et Laure, avaient dû acheter dans quatre professionnels plusieurs smartphones, tablettes de casse pour des tests d'applications et les reconditionner. Ça, c'était dans le cadre d'une ancienne boîte. Ok, donc c'est pas un repositionnement de CertiDeal.
Non, du tout,
dès le démarrage.
On n'arrêtait pas, on développait des applications sur BlackBerry dans une autre société. C'était BlackBerry. À l'époque, mais c'était pas si vieux, enfin c'était en 2014, 2013.
Ouais. À l'époque, c'était hype, voilà. BlackBerry.
Donc on développait des applications sur BlackBerry. Non, mais c'était surtout des applications d'entreprise. C'était le téléphone d'entreprise. Et effectivement, il y avait beaucoup de modèles chaque année. Et donc on devait sans arrêt en acheter. Et c'était une société qui n'avait pas beaucoup de financement. Et donc, on avait beaucoup recours au Bon Coin. Et c'est vrai que c'était compliqué. C'était en dehors de la difficulté logistique du truc, de se donner des rendez-vous, de se voir, tout ce qu'on connaît autour de la vente de particulier à particulier. On a eu beaucoup de téléphones qui ne marchaient pas, on a eu beaucoup de téléphones... On a eu plein de petits problèmes. Et on a commencé à se rendre compte quand même qu'il y avait énormément d'annonces sur le Bon Coin, qu'il y avait une vraie demande pour pouvoir payer ces téléphones moins chers. Mais qu'il n'y avait pas de service.
À l'époque, c'est juste de la seconde main. Il n'y avait pas de reconditionnement.
Le mot n'existait pas. Le mot n'existait pas. Après, ça commençait quand même à se développer principalement. En Angleterre, c'était déjà un marché qui était assez mature. Aux États-Unis.
Avec des acteurs qui s'occupaient de.
Sur eBay, sur les places de marché, mais il y avait des professionnels déjà qui commençaient à le faire. En France, il y en avait quelques-uns qui avaient commencé aussi, mais c'était encore très confidentiel comme marché.
Quand on parle de reconditionnement entre un particulier qui va prendre son téléphone, le mettre en vente, ça arrive chez toi. C'est quoi l'étape CertiDeal dans les ateliers?
Alors les produits arrivent chez nous, on va les ouvrir, les attribuer au client, enfin, on a une petite partie de préparation. Et ensuite, la première étape, c'est l'effacement des données. Donc ça, on a une salle pour ça, dans laquelle tous les appareils passent par un logiciel certifié d'effacement. Donc ça, c'est pour éviter ces questions de GRPD. On a aussi d'autres normes qu'on respecte. Qui nous impose.
On se dit toujours, est-ce qu'ils sont capables de récupérer, même si moi je pense avoir tout effacé, est-ce qu'on peut récupérer des données confidentielles?
Non, on ne peut pas le faire, mais en plus de ça, nous, c'est vraiment le pass, enfin, il y a l'effacement du téléphone, alors après, ça c'est technique, mais par iOS. Et ça, mais moi là-dessus, je sais qu'on a un effacement par une couche, après on peut avoir un effacement sécurisé, ce qui est ce qu'on fait, qui est par un logiciel spécial d'effacement, et là après, il n'y a plus rien dans le téléphone.
Ok, voilà. Donc ça, première étape.
Ouais.
Mais ça n'en fait pas un téléphone totalement reconditionné.
Il n'est pas du tout reconditionné.
Ouais, voilà.
Donc ensuite, nous... Alors après, il va y avoir différentes notions de reconditionnement. On va voir ce qu'on fait chez CertiDeal. Nous, le téléphone ensuite va passer en test. Donc ça veut dire qu'on a une application qu'on développe nous-mêmes, qui est une application propriétaire qu'on va pusher sur le téléphone. Et on a des équipes de testeurs qui vont tester votre téléphone réellement. Donc ils vont,
on teste quoi?
On teste tout. On teste la batterie, on va tester l'écran, on va tester le son, on va tester tous les indicateurs sonores. Donc, il y en a plusieurs sur un téléphone. Il y a l'écouteur interne, il y a le haut-parleur, beaucoup de choses. Et après, on va tester toutes les caméras, il y en a de plus en plus sur l'iPhone. On va aussi tester que le son fonctionne pendant la vidéo. Et après, on va tester tout ce qui touche à la localisation, donc le GPS, l'accéléromètre, enfin tout ce qui existe dans la partie téléphone que vous baladez comme ça.
Merci de préciser parce que je projette pas forcément.
Y a pas de... Et donc, on a en gros une 35-40 tests qui sont réalisés sur le téléphone. Et à la fin, on va aussi, lorsque le test va être réalisé, donc il va être positif ou négatif.
S'il est négatif, il se passe quoi?
Alors,
c'est
négatif,
vraiment
après...
moins cher ou vous ne le mettez même pas en vente?
Non, s'il est négatif, on va le réparer.
Ok.
Voilà, en fait, c'est là où on intervient après dans la deuxième étape. C'est si jamais il est négatif et qu'on a, je sais pas moi, un son trop faible,
ouais,
on va changer les écouteurs.
Voilà. Et tu les changes complètement?
On les change complètement. Okay. Alors ça, c'est, ça va être le cas pour à peu près toutes les pièces,
okay,
toutes les pièces du téléphone. Et à la fin, il va y avoir une autre étape qui est l'étape de, on va dire, de grading, où là, on va mettre une note au téléphone qui est une note cosmétique. Donc, il y a plusieurs facteurs. Il y a l'écran, il y a le châssis. Et le téléphone va sortir avec une note. Et en fonction de sa note, il va être sur le site en fonction des... On a différents états. Et on va lui attribuer un état. Voilà.
Et ensuite, ça part sur le site, mais pas que.
Exactement. Ça part quasiment que sur le site. Donc,
j'ai vu un de tes posts LinkedIn où tu parlais de Le Bon Coin et que maintenant les gens précisaient.
Ouais,
mais
ouais.
J'en reparle après si tu veux.
Ouais,
on parlait de ton associé qui t'a laissé un message.
Vous avez un message.
Quand on a monté Certideal ensemble, on avait un pari, plein d'espoir de faire partie du changement de ce monde et de sa consommation. Et un jour, je ne sais pas si tu t'en souviens, tu m'avais dit, ce qui est cool dans notre aventure Certideal, c'est que j'ai pas l'impression d'aller au travail. Du coup, après 8 ans d'entrepreneur, je me demandais si c'était toujours le cas.
Une voix très radio.
Ouais. Non, mais c'est 100% le cas. Ça, je pense que c'est un des critères principaux pour être entrepreneur. C'est que, effectivement, ça a aussi un côté néfaste, c'est qu'on est un peu tout le temps, aussi tout le temps au travail. C'est un peu un autre sujet. Mais c'est sûr qu'on n'a pas du tout ce sujet de lundi, vendredi. Le travail est imbriqué dans ma vie et c'est mon terrain de jeu. C'est là où on n'est probablement pas le plus à l'aise, mais c'est un bonheur quotidien.
Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas ce sentiment d'aller au travail depuis 8 ans? C'est le fait que tu es maître de tes choix, de ton timing, de ton quotidien?
Non, c'est pas ça.
Voilà.
Non, c'est pas ça. C'est que j'adore ce que je fais et que tout ce que je fais aujourd'hui, même quand c'est très compliqué, hein, ça fait partie pour moi d'un... C'est complètement inhérent, mais voilà, c'est pareil, je pense à un vrai truc d'entrepreneur. C'est complètement inhérent à ma vie. Donc, je ne peux pas le dissocier du reste. C'est quelque chose qui est intégré dans ma vie au quotidien. Et donc, effectivement, la liberté, c'est des trucs qui sont... La liberté, l'autonomie, c'est très sympa, même si ce n'est pas forcément vrai.
Ouais, c'est bien de le rappeler.
Ouais, c'est pas forcément...
Pourquoi ce n'est pas vrai?
C'est pas vrai parce qu'on est quelque part tout le temps au travail. Donc, pendant une longue période, une longue période de création d'une start-up, surtout d'une société qui grossit très vite, il y a forcément énormément de trous partout. Et donc, on est aussi forcément un peu le pompier. On est même complètement le pompier. Donc, on est tout le temps un peu connecté, tout le temps disponible, tout le temps en train de gérer des trucs qui sont plus ou moins importants d'ailleurs. Mais c'est très important qu'on le fasse aussi. Et voilà, donc on est tout le temps au travail, mais en même temps, c'est vrai que c'est y a pas un jour où on s'ennuie réellement.
Quand tu parles de ce côté pompier sur tous les sujets, y compris des sujets qui sont moins importants que d'autres...
C'est de moins en moins le cas. Hein.
Ouais, j'imagine bien. À un moment, l'équipe grossit. Mais alors, du coup, entre l'œuf et la poule, est-ce que on est capable de moins avoir à faire le pompier parce que l'équipe grossit? Ou à un moment, tu as un changement, tu as un switch de posture, de positionnement, d'organisation, où tu te dis maintenant, ces sujets-là, je ne dois plus les traiter. Donc, je vais recruter. Ça peut être l'un ou l'autre.
C'est un peu les deux.
Ouais.
Mais c'est un peu les deux parce que, en fait, déjà, moi, je suis assez convaincu que pendant longtemps, les entrepreneurs, ils doivent savoir faire beaucoup de choses dans la société et ils doivent être capables de gérer beaucoup de projets, même pour pouvoir être crédibles vis-à-vis de leurs équipes. Donc, nous, on a eu à cœur d'avoir au début développer des compétences techniques sur certains sujets qu'on ne maîtrisait pas au début. Je sais pas, par exemple, en tech, on n'est pas tech. Il se trouve qu'on est deux fondateurs non tech, mais on est capable de discuter avec des techs. Sur la partie marketing, qui est un sujet fondamental chez nous, pour le coup, c'est un sujet que Laure, pendant longtemps, a géré, ou connaît bien en tout cas le fonctionnement des plateformes. Donc c'est un sujet pendant très longtemps qu'on a essayé, sans devenir forcément des experts de tout, mais au moins d'avoir une connaissance technique du projet. Et après, il se passe un moment où surtout on a des équipes ça se fait en même temps. Les équipes grandissent, on en a besoin. Elle commence à devenir complètement indépendante et meilleure que nous sur certains sujets, et tant mieux. Et ensuite, on se dit, de toute manière, il faut qu'elle arrête de le faire. Voilà. Ce qui n'empêche pas qu'on a... Mais on a cette crédibilité qu'on conserve et qui nous permet quand même d'en parler. Voilà.
Tu évoques un sujet qui doit parler à beaucoup de nos auditeurs. On ne peut pas être expert sur tout. Et comme tu l'as dit, on a quand même besoin d'avoir un œil, d'être capable d'échanger avec toutes les parties prenantes sur à peu près tous les sujets. Comment on monte en compétences? On apprend sur le tard, dans le dur de sa boîte. On va se former ailleurs. On échange avec des experts. Comment?
Je pense qu'on peut. Il y a plein de manières de se former. Nous, je pense, notre expérience a été de passer du temps. Donc, par exemple, avec des consultants qui travaillent avec nous, leur demander de nous montrer des choses et de passer du temps en dur. Ça veut dire d'être sur une plateforme AdWords, bêtement, et de passer 5 heures à essayer de bien comprendre ce que je lis, qu'est-ce qu'il y a, enfin, d'essayer de comprendre le fonctionnement de la plateforme. Et c'est pareil pour, ça a été pareil pour beaucoup de sujets. Les sujets tech, c'est un poil plus complexe parce qu'on va pas commencer à rentrer dans le code, ça a pas de sens. Mais en tout cas, apprendre de beaucoup, beaucoup communiquer avec ses équipes, de lire un maximum de choses. Et de ne pas s'arrêter sur certains sujets, d'essayer toujours de continuer. En fait, je pense que le plus important, c'est la lecture.
Toujours sur votre site, je vais vous citer, mais ça permet d'évoquer la concurrence. Vous dites, à la différence des autres sites de vente en ligne proposant plusieurs vendeurs de téléphones reconditionnés ou marketplace, Certidi justement se pose comme un expert reconditionneur et vendeur. Ça m'amène aux questions aussi que voulait évoquer Olivier. Alors, il parlait notamment de back market, de remade aussi. Il voulait t'entendre là-dessus. Donc, premier sujet, comment tu te positionnes par rapport à tous ces acteurs, même si c'est en partie évoqué là, je crois qu'il y en a un qui n'existe plus. On peut peut-être aussi parler de recommerce qu'on a aussi reçu à ce micro. Et voilà, comment tout ce marché fonctionne. Le gâteau grossissant, j'imagine qu'il y a de la place pour tout le monde. N'empêche qu'il faut faire sa place.
Dans le monde, dans notre univers du reconditionné, traditionnellement, on voit deux types de sociétés. Il y a des sociétés qui ont plutôt un comportement en général de grossistes ou en tout cas de vendeurs marque blanche qui vont produire beaucoup de smartphones, essayer d'en collecter un maximum et ensuite les revendre sur des canaux de distribution très divers, très, très diversifiés, des opérateurs mobiles, la grande distribution. Et d'un autre côté, on a en général les sites marchands sont des marketplaces. Donc, sont des marketplaces. Il y en a une que tu as citée qui est leader. Sur le marché, et des marketplaces qui vont globalement agréger des vendeurs du monde entier. Donc, qui vont être plus ou moins européennes, mais globalement, on peut dire que c'est vraiment du monde entier, voire un peu exotique. Et Certideal, on a fait le pari d'avoir ces deux casquettes. Donc, ça veut dire, je pense qu'on est les seuls avec ce niveau de volume à reconditionner des smartphones, donc avoir un vrai outil industriel sur lequel on peut produire beaucoup de smartphones. Donc, tester beaucoup de téléphones, les mettre en vente, les grader, avoir un outil de gestion de stock qui est performant, un outil de pricing, mais ensuite les revendre directement en particulier. Et ça, on est probablement les seuls aujourd'hui avec un volume industriel.
Du coup, quel est l'intérêt de ce positionnement-là?
L'intérêt de ce positionnement-là, c'est que lorsqu'on vend des smartphones, il y a une opacité qui est critiquée, de toute manière, et qui est un sujet sur la qualité des produits qu'on va fournir, parce que, effectivement, le remplacement des pièces, notamment, l'origine des téléphones, est-ce que l'origine, je parle pas de l'origine géographique, je parle de l'origine, est-ce qu'on a acheté des téléphones qui étaient à la casse et qu'on va reconditionner intégralement avec du coup des taux de perte qui vont être très élevés?
Ou là tu te demandes à quel point oui c'est...
Bah ça existe, enfin, ouais. Nous on sait qu'il y a des fournisseurs qui revendent sur d'autres sites qui à l'origine achètent des téléphones en lot qui sont des téléphones qui sont complètement non fonctionnels et qui vont forcément réussir à les réparer, mais ça va pas durer très longtemps, enfin il va y avoir une grande majorité de... Ou bien comme nous, on a un positionnement où tous les produits qu'on achète sont des produits qui viennent soit en direct, parce que c'est notre programme sur le site de revente, soit via un opérateur, directement des particuliers. Donc, c'est des produits qui ont été moins touchés. C'est des produits de la vraie vie, en fait.
Attends, pardon, juste pour comprendre, et je te laisse poursuivre sur l'intérêt du positionnement, mais où passe un téléphone qui n'est pas un téléphone de la vraie vie?
En fait, un téléphone non fonctionnel, un téléphone non... En achetant des téléphones en particulier, on récupère un taux de téléphone non-fonctionnel qui est assez faible, autour de 15-20%. Et on reçoit un taux de téléphones qui ont des grosses pannes qui est très 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 faible, qui va être moins de 1%. Il se trouve qu'il existe des acteurs dont c'est le métier d'acheter ces téléphones qui sont très abîmés et qui vont réussir à les réparer. Donc, ils ont des ateliers avec des réparations plus complexes. Mais beaucoup plus complexes, ça veut dire aussi beaucoup plus instables. Et ces téléphones, ils finissent à la vente.
Mais ils sont passés par où pour être si en panne ?
Par des gens qui les ont revendus ou qui les ont quasiment donnés dans des programmes de reprise. Ou bien un programme d'assurance. Ça existe, mais c'est vrai que nous, on en a un nombre extrêmement faible parce qu'on prend des téléphones qui, en majorité, n'ont jamais été réparés. Et donc, le fait de le faire nous-mêmes, ça permet de s'assurer d'avoir des standards de qualité très élevés parce qu'on va garantir le téléphone nous-mêmes 2 ans. Donc, il faut que... Enfin, on n'a pas vraiment d'intérêt à faire n'importe quoi. Oui. On va le garantir 2 ans. On va devoir assumer donc tout éventuel problème pendant 2 ans. Et on a aussi notre image qui est mise en jeu sur chaque produit qu'on vend. Et c'est un marché où nous, on a aujourd'hui 30-40% de nos clients qui viennent par le bouche à oreille. Donc, la grande différence avec les plateformes anonymes, c'est que les vendeurs ne jouent pas à leur... Les vendeurs ont une relation avec le site internet. Donc, il faut qu'ils arrivent à le séduire. Donc ça veut dire qu'il faut qu'en gros, les produits n'aient pas trop de rétractation, les produits n'aient pas trop de retour. Nous, on a un enjeu plus important, c'est qu'on a besoin aussi d'avoir une solidité financière sur les 2 années. Il faut que le produit reste chez le client. Voilà. Donc, on pense que c'est la meilleure moyen. Et en plus de ça, on a aussi un sujet, c'est qu'on a une action très forte, une application très forte, du coup, dans une semi-industrialisation, parce qu'on n'est pas non plus des processus industriels de construction automobile, mais quand même, on a une usine à Levallois aujourd'hui. Et on a un impact social sur notre environnement qui est super élevé. Enfin, je ne sais pas combien de jeunes on a formés chez nous qui ont fini par, en venant de rien, à avoir un métier où ils ont un CDI, ils ont un vrai job, ils apprennent à faire de la réparation. Donc, on a quand même un impact qui est beaucoup plus fort que celui d'un vendeur à l'étranger qui vend en France.
Tu te sens plus tech ou plus industriel ?
Non, quand même plus tech.
Ouais.
Quand même plus tech.
Mais le fait d'avoir son usine, c'est... Ouais. On a eu dans notre autre format Cash Out, Pascal Turquetil du groupe Muller, un gros industriel. Et tu sens qu'il y a, enfin, il y a un regard de l'industriel sur le côté très humain, des familles dont elle a aussi la responsabilité, et le côté très matériel de pouvoir toucher un objet, aller dans l'usine, le temps long aussi.
C'est vrai.
Dans le choix des innovations, du positionnement.
Ça, nous, on l'a un peu moins parce qu'on est dépendant de produits qui sont réalisés par d'autres. Donc, nous, on est des... Notre métier, c'est de reprendre des produits, de les réparer quand il y a besoin, en tout cas de s'assurer, de garantir aux clients, sans rentrer dans le détail, qu'il va acheter un truc qui va être bien, voilà, qu'il va avoir pour son argent, que ça va être bien, que ça va durer. Et qu'éventuellement, si un jour il a un problème, on va être là pour le gérer. Voilà. Globalement, c'est ça notre problème. Donc, on n'innove pas sur les produits. Mais on innove dans la manière de faire.
Et donc, à chaque fois qu'un acteur de la téléphonie sort une nouvelle device, une nouvelle innovation sur son téléphone, j'imagine que c'est un casse-tête parfois de votre côté pour remettre à jour votre fameuse appli, pour valider. Alors, il y a un petit décalage peut-être entre le moment où ça sort et le moment où il va pouvoir être conditionné. Mais...
En général, on a un an. Ouais. En fait, l'iPhone 15, par exemple, on en vend très très peu. Donc on a très peu de sujets. Et puis la majorité des produits qu'on reçoit d'iPhone 15 sont quand même très fonctionnels. Ils ont 6 mois. Donc en général, on a un an pour se préparer. On a un petit enjeu souvent sur les sorties d'iOS surtout, où Apple peut avoir des petites surprises, mais en général, ça se termine toujours bien.
Ouais. On parlait d'acteurs qui ne sont plus là. Sans les citer du coup, parce que c'est pas le sujet, mais... Sur ta boîte, tu sens que ça fait une diff avec plus de gens qui viennent à toi à ce moment-là. Tu as une observation du marché où tu dis c'est le positionnement peut-être qui peut expliquer et a priori on a fait le bon.
Je pense que les acteurs qui ont eu du mal à une époque, c'est les acteurs qui sont surtout sur des processus ultra-industriels et qui revendent à la grande distribution. Ça, c'est difficile. Nous, on a fait totalement l'inverse. On essaye d'avoir... On a du stock, hein, donc c'est un sujet, mais on n'en a pas beaucoup. On essaie d'en avoir le moins possible, d'être le plus lean possible. Donc, on a fait le choix d'avoir beaucoup moins d'engagement financier et d'engagement matériel sur la distribution. Donc, on achète des smartphones et tous nos smartphones vont être vendus sur le site. Donc, si jamais on a un smartphone qui a un pet sur le châssis, il va être vendu moins cher et il va trouver un client. Donc, nous, notre option, ça a été de rendre les process industriels les plus légers possibles et de moins toucher possible le téléphone. On pense en plus que tout remplacement de pièces, c'est souvent fait par des pièces qui sont pas d'origine, où on essaie de rendre des téléphones cosmétiquement très beaux. Donc tout remplacement de pièces est négatif, donc on essaie au maximum de conserver les pièces Apple sur la majorité des pièces. On vous vend des produits garantis avec des pièces Apple sur le site. Et je pense que c'était un choix stratégique qui s'imposait, qui était pour nous le plus cohérent.
Yann, j'aimerais parler de com. Vous êtes sur un marché où en plus la notion, tu l'évoquais tout à l'heure, de pouvoir d'achat, de fin du mois est essentielle. Comment on positionne sa com sur un marché concurrentiel, et aussi comment on ne met pas non plus tout sur le prix, parce que si on joue que sur les prix, à un moment, on baisse aussi sa marge. Comment vous avez fait avec tout ça, le marché, le prix, le positionnement, et est-ce qu'il y a eu des coups de com un peu malins ou simplement très pragmatiques de où est-ce qu'on affiche nos communications pour toucher nos futurs utilisateurs? T'as parlé de 40% de bouche à oreille, donc ça c'est...
Aujourd'hui, c'est le taux qu'on a. C'est, pour nous, c'est nos clients sont notre outil marketing numéro un, mais c'est pas que ça. On a aussi un budget marketing qui est très élevé. On a dû composer avec... C'est un marché où il y a eu effectivement beaucoup de levées. Il y a eu beaucoup d'argent qui a afflué sur ce marché. Et...
Trois acteurs passés par le FT120 ou Next40 sont dans le reconditionnement, oui.
Exactement.
Parenthèse, ça fait 4 années de suite que vous êtes au FT120.
Exactement. On a toujours été présent au FT120. Parce qu'effectivement, on a des chiffres de croissance qui sont assez réguliers, qui sont tous les ans, et on a plutôt toujours été rentable, ou presque.
Pas loin.
Très proche de la rentabilité, maintenant on est rentable. Et.
Alléluia.
Voilà. Et, sur le marketing, il a fallu être malin. Il a fallu quand même être malin, mais aussi agressif. Donc on a quand même toujours eu des budgets, ça a toujours été pour nous un poste, c'est le poste qu'on n'a jamais voulu renier, parce que c'est là quand même, il faut qu'on parle de nous.
C'est quoi en budget de dépenses marketing mensuelles? Tu peux communiquer ou pas?
C'est autour de... Ouais, c'est 6-7 millions par an.
Par an.
Ouais. Et un peu moins que ça, c'est plutôt 6 millions par an.
Ouais.
Et il a fallu qu'on soit quand même... Ça n'a pas toujours été à ce niveau-là, mais ça a toujours été important. Par rapport à la tête de la structure.
Oui, j'imagine qu'au lancement, vous n'étiez pas à 7
millions. Non, mais on dépensait quand même assez rapidement. On a investi un montant important du chiffre. Donc, il a fallu qu'on soit malin. Donc, c'est-à-dire qu'on gère proprement les plateformes. Ça a été pendant très longtemps beaucoup AdWords. Mais depuis, effectivement, on a ouvert à beaucoup de canaux. Mais pendant très longtemps, ça a été beaucoup AdWords. On travaillait avec une agence qui travaillait très bien. On le faisait ensemble. Ensuite, on a effectivement tout de suite eu un message différent. Donc, nous, notre message, ça a toujours été des messages très rassurants. Sur
la qualité,
sur la garantie, puis la garantie aussi. On était le premier à matcher la garantie légale du neuf. Donc on a été le premier à faire une garantie de 2 ans. À l'époque, c'est la loi prévoyait que c'est un peu compliqué les questions de garantie, parce que les produits d'occasion sont garantis comme le neuf, mais avec des critères différents d'action. Mais en gros, le marché, pendant très longtemps, le garantie c'est 6 mois. Nous, on était à 2 ans. Aujourd'hui, c'est 1 an et nous, on est à 2 ans.
Ouais, ça rassure.
Ça rassure. Enfin, et surtout, un des points importants, c'est que le client se dit, s'ils le font, c'est qu'ils sont sûrs d'eux.
Ouais.
Donc, on a tout de suite eu un outil qui nous permettait de gérer aussi du SAV, parce que les téléphones peuvent revenir pendant 2 ans, les traiter. Et du coup, on s'est retrouvé avec une clientèle qui est probablement un peu plus âgée que celle de nos concurrents, plutôt jeune père de famille, qui achète aussi pour lui, pour ses enfants. Et très rapidement, on se rend compte que nos clients achètent chez nous beaucoup plus qu'un produit par an, au final. Et ça a été un élément fondamental pour nous. Ça nous a permis de trouver notre prépositionnement, un positionnement rassurant, un positionnement de qualité, un positionnement français, parce qu'on revendique aussi ce truc de faire tout nous-mêmes, d'avoir notre propre atelier, d'avoir...
Donc la garantie fabriquée en France, reconditionnée en France.
Ouais, la garantie reconditionnée en France. Et après, au niveau du prix, on est très agressif sur les prix. Donc ça reste un marché où le prix est très important, et on s'organise, et ça a été plutôt la question de la marge, c'est effectivement un sujet fondamental, mais en même temps, on a toujours pris à l'envers. Ça veut dire, on s'est dit, il faut qu'on soit agressif, il faut qu'on soit compétitif.
Comment on ne perd pas d'argent
Et après, on se débrouille. Voilà. Ouais. On a toujours fait comme ça, et aujourd'hui, on y arrive. Aujourd'hui, on a aussi une capacité d'achat qui est importante. On arrive à se fournir, à avoir nos smartphones à des tarifs qui sont assez agressifs. On arrive à être agressif sur la vente, mais le prix, c'est quand même un élément un élément fondamental. Après, c'est pas le prix qui va tout faire du tout. Et être 5 euros moins cher ne changera rien. Mais par contre, on ne doit pas être déconnant.
Oui, les gens sont prêts à payer peut-être 5 euros plus cher pour une garantie de 2 ans versus une garantie d'un an.
On parle de 5 euros plus cher, c'est le même prix.
Ouais.
Voilà. Après, par contre, voilà, faut pas être déconnant. En tout cas, nous, on a cette stratégie d'être toujours. On vend la seconde main, on ne va pas du luxe. Donc, on doit être dans des prix qui sont des prix agressifs.
Tu parlais du SEO. Est-ce qu'il y a d'autres supports, d'autres canaux?
Aujourd'hui, on fait tout. Donc, on est sur toutes les plateformes. Elles ont toutes leur intérêt. Après, il y a des plateformes qui vont effectivement générer des transactions un peu plus tardivement, mais qui vont quand même créer un petit peu d'engouement sur la marque. Donc, on est sur TikTok, on est sur tous les réseaux sociaux. Un des trucs qu'on a fait qui a eu le plus d'impact, donc ça a été surtout faire de la télé. Donc, en 2020, on a décidé de faire une campagne télé très quali sur quasiment que sur des grandes chaînes à des grandes audiences. Et ça nous a fait passer un cap de notoriété.
Pourquoi tu n'as pas reproduit du coup l'opération d'année en année? Le budget?
Il y a une question de budget, et puis en fait, on avait fait ce qu'on voulait faire. Et après, on est parti sur d'autres canaux.
Autre chose à
donc
dire,
après, ouais. Depuis maintenant, on fait beaucoup de contenu aussi. On est sur toutes les plateformes vidéo. Aujourd'hui, on en a moins besoin. L'impact a été moindre, mais c'est vrai que cette année-là, quand on l'a fait, ça nous a fait passer un cap. Où en fait, on a été. C'est un très bon marqueur de. Très bon marqueur de. Comment dire de. C'est une très belle réassurance, la télé, malgré tout. Après, je ne sais pas si c'est un projet qu'on doit faire tous les ans, ça dépend. Je pense qu'aujourd'hui, on peut faire d'autres. On peut et on fait d'autres médias. Mais en 2020, ça a créé un cap. Et puis même en interne, ça a donné une impulsion qui était très forte.
On parle de com, je te propose de tester, d'être le cobaye d'une nouvelle rubrique où on a scrollé LinkedIn.
Okay.
Et on va te demander de réagir. Alors là, j'ai cherché un post qui avait fait plus de 1000 likes, etc. Donc là, on est à 1418 likes. C'est un post de Pierre Guilbeault que je te lis ici. Quand un freelance m'envoie sa facture, j'arrête tout ce que je fais. Et je lui fais un virement parce que ça me prend 2 minutes alors que lui, il a passé des heures à travailler pour moi. C'est ma manière de lui dire 1, j'ai de l'estime pour toi. 2, je valorise ton travail. 3, merci. Et ça me paraît normal. 1418 likes, 88 commentaires, 23 republications. Est-ce que ça t'évoque quelque chose?
Ce qui est certain, c'est que le fait de payer vite, ça fait qu'on vous apprécie plus. Et c'est probablement très important pour un freelance d'être payé vite. Donc, quand on reçoit la facture, bon, alors, je ne vais pas la payer tout de suite parce que je dois l'envoyer à quelqu'un, mais on s'efforce de payer les gens très rapidement. Voilà. Donc, et ça, c'est vrai que c'est un grand syndrome de grand groupe en France, ouais, de payer le plus tardivement possible.
Oui, ou de rajouter des process qui fait.
Ouais,
mais
globalement, je pense qu'aujourd'hui, c'est fondamental de payer très vite. Et en plus de ça, ça ne change rien parce que la facture finira par être payée. Il faudra la payer. Et ça améliore énormément l'estime qu'on a pour vous. Donc, je pense que il a raison.
Tu communiques peu sur LinkedIn.
C'est vrai.
Et alors, je ne sais pas si c'est volontaire, si tu as autre chose à faire, si tu ne vois pas forcément l'intérêt, que tu préfères te concentrer sur le business au quotidien. Mais c'est vrai qu'on voit quand même de plus en plus d'entrepreneurs porter, incarner leur marque. Alors, je suis allé chercher il y a 9 ans tes premiers posts, en tout cas que j'ai trouvé. Alors là, pour la joke, je pense que c'est une erreur de faute de frappe, à moins que tu me l'expliques et que c'est un modèle de téléphone. GSB F8 F8i 2 me.
Sur LinkedIn?
Ouais. Il y a 9 ans, je te le montre tout en bas. Donc, ouais. Voilà. C'est faute de frappe ou c'est modèle de téléphone?
Non, c'est faute. C'est un faux poste, en fait.
Ça n'a pas suscité, voilà, effectivement.
Non, ça n'a pas beaucoup de succès.
L'engouement. En tout cas, au fil des ans et depuis principalement 3-4 ans, tu as une remontée du nombre de likes, etc. Je voulais partager quelques posts. Okay. Tu n'es pas obligé de rebondir sur tout, mais tu en avais notamment un sur le fait d'être certifié solidaire, qui a pas mal pris. Tout ce qui a trait à votre classement FT120, qui a bien marché. Et enfin, maintenant, on trouve en masse des produits garantis par Certideal sur Le Bon Coin. Je te laisse choisir ce sur quoi tu veux rebondir.
Non, on peut parler du dernier sur Le Bon Coin. Ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve sur d'autres plateformes d'ailleurs, enfin, sur plein de sites, des produits qui sont garantis encore chez Certideal et ça rassure les clients. Donc nous, on trouve ça très marrant qu'on puisse devenir un critère de qualité et même de sélection de produits pour les mettre en avant sur des plateformes qui sont des plateformes qui ont toute leur légitimité.
C'est-à-dire que tu livres un petit certificat
Ils ont leur facture avec la date de garantie. Yeah. Et donc, effectivement, ils ont une garantie française, c'est un peu mieux que d'avoir un... Et puis, c'est vrai qu'on devient un tampon, quoi.
Donc, ils rachètent pour revendre au lieu de vous revendre à vous.
Non. Je pense que des gens qui veulent leur vendre.
Ouais.
Ils vont essayer d'optimiser au maximum la vente et donc ils vont aller sur Le Bon Coin plutôt que de leur vendre sur un site professionnel. Ils vont passer du temps, donc c'est leur choix.
Ouais.
Et ensuite, par contre, effectivement, ils vont rajouter comme critère de qualité du produit le fait qu'il est encore garanti chez nous.
Je reviens sur la question que je n'ai pas posée, mais le temps que tu passes à ta communication plus personnelle, je laisse trois petits points sans
faible.
Mettre de point d'interrogation.
Non, faible. C'est, je pense que effectivement, je trouve ça bien de le faire. Effectivement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui passent beaucoup de temps à développer leur marque perso. Et ça a beaucoup d'impact sur leur société. Après, je pense que c'est aujourd'hui, de plus en plus, effectivement, on te dit que c'est très important, qu'il faut absolument. Je pense que c'est pas indispensable. Je pense que ça va correspondre.
Il vaut mieux avoir un produit, une boîte qui tourne.
Non, mais c'est bien de le faire. C'est bien de le faire. Je pense qu'on peut faire sans. C'est vrai que je pense que ça va aussi correspondre à des caractères, à un certain plaisir aussi. C'est vrai que moi, je le fais pas trop. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, Certideal en a moins besoin, que effectivement ça aurait pu probablement aider il y a très longtemps au lancement. Je pense que ça peut effectivement, il y a des sociétés, je sais pas moi, enfin c'est connu, genre Respire,
ouais.
Elle a porté son produit comme ça, donc je la connais pas du tout,
ouais.
D'ailleurs, mais
tu l'as forcément vu passer dans ton
fil, voilà, et puis il y en a d'autres, donc je pense que c'est vachement bien. Mais après, je pense que c'est une question aussi d'appétence sur le sujet. C'est vrai que moi je le fais assez peu. Ce qui n'empêche pas qu'on développe un vrai réseau, mais plutôt offline, on va dire, et qu'on travaille beaucoup notre image, mais peut-être, enfin, en tout cas, je travaille beaucoup mon image, mais probablement moins sur les réseaux sociaux, c'est vrai.
Plus offline. Écoute, super transition. On est sur cette nouvelle rubrique que je teste avec toi également. Je t'ai dit que tu serais notre cobaye. La rubrique qu'on appelle l'apéro. Parler du offline. Demain, tu dois te faire un apéro avec 3-4 potes, entrepreneurs. Qui tu mets autour de la table et de quoi vous parlez? Et a priori, quels seront les thèmes qu'on aborde parfois dans ces temps entre dirigeants, qu'on n'aborde pas forcément avec ses équipes, pas forcément dans les médias non plus?
Les thèmes, je pense que ça sera forcément lié autour de l'humain et autour des équipes. Parce que ça, c'est un sujet sur lequel il n'y a pas forcément de solution, il n'y a pas de règle unique, ça va dépendre de chacun, mais par contre, l'expérience est fondamentale. Et on apprend tout le temps. Ensuite, là, donner des noms, bah, par exemple, effectivement, alors je ne sais pas s'il viendra, mais je pense qu'il n'a pas forcément le temps. Mais par exemple, c'est vrai que nous, on a une relation assez forte avec le groupe Iliad,
ouais.
Avec le groupe Free. Alors si je pouvais faire un apéro avec Xavier Niel, ça serait parfait. Même si on a l'occasion de se voir régulièrement.
Mais là, tu le fais en tête à tête, c'est pas un apéro avec plein de monde.
Voilà.
Là,
exactement.
Le pour toi.
Non, ouais, ça c'est un. Effectivement. Non, après, on a pas mal d'entrepreneurs, pour le coup, qui sont nés de chez Certideal. Donc on a au moins deux boîtes qui ont été créées par des anciens stagiaires qu'on avait. À l'époque, ils étaient super jeunes et puis maintenant, ils ont pris leur envol et c'est des boîtes qui cartonnent. On a une stagiaire qui a monté une plateforme pour gérer des problèmes sur la ménopause et un autre sur le paiement des freelances. Et en fait, je pense qu'on pourrait se revoir maintenant et discuter un peu des problématiques, même si jamais effectivement on n'est pas au même stade de développement parce qu'ils sont plus récents. Mais je suis assez content qu'on ait pu c'est pas nous, hein, c'est eux à la base, c'est eux, ça vient d'eux et puis ils ont fait un stage, c'était des stages bras droit où on est. On passe beaucoup de temps avec Laure et moi, justement. Mais en tout cas...
C'est vous qui avez appelé ça les stages bras droit ou c'est des écoles qui proposent ça?
Non, c'est nous. On, ouais. on cherchait des stagiaires qui ont une tête bien faite et qui peuvent nous aider au quotidien et passer vraiment tout le temps avec nous. Je pense qu'on avait respecté vraiment ce qu'on leur avait promis. Ils ont passé tout le temps avec nous. à l'époque. Et c'est qu'on en a deux au moins, peut-être que j'en rate, qui ont monté des startups, qui ont fini par lever de l'argent, qui ont...
T'es allé les chercher où?
C'est les grandes écoles.
C'était quoi la fiche de poste?
Stagiaire, bras droit, dirigeant. Dirigeant startup.
Et donc, ils te suivent partout, ils font quoi, des comptes rendus, de la strat, des...
C'est très et puis aussi de l'opération aussi,
ouais.
Aussi de l'opération, un peu de tout pour, je pense que c'était, maintenant on a plus ce poste, on l'a eu pendant longtemps, mais effectivement à l'époque je pense que t'en sortais en ayant appris plein de trucs, quoi.
T'as parlé des sujets que t'aborderais avec tes copains non nommés à l'apéro.
Je peux les nommer si jamais.
Tu peux, mais...
Ouais, il y a Mathilde et Vincent, c'était deux stagiaires, mais je pense qu'il y en a d'autres.
Donc il y avait ce sujet des équipes. On dit souvent petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Est-ce que c'est aussi petite boîte, petit problème, grande boîte, grand problème?
Non.
Non.
Non. Les petites boîtes ont plein de gros problèmes. En fait, dans une petite boîte, un petit problème devient très très vite très grand. Si jamais je vais prendre un exemple, un truc très très bête, mais au lancement de Certideal, on fait 30 commandes par jour au début. Du coup, on est un petit client des transporteurs. Le soir, il vient pas parce qu'il vient pas.
Gros problème.
Gros problème.
Ouais.
Voilà, gros problème. Et on va y passer un temps fou pour régler le problème. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, ça va pas arriver parce que
c'est sur le volume, même.
Il va venir 8 fois dans la journée. Ouais. Donc on a moins de sujets. Non, je pense qu'il n'y a pas de lien vraiment entre les deux parce que ta boîte, c'est ta boîte. Elle est petite, elle est grosse, c'est ta boîte. Et en général, plus la société grandit, plus elle est préparée pour gérer des problèmes. Donc, ils doivent arriver beaucoup moins souvent.
Eh bien, écoute, je te propose de revenir sur, en partie, les débuts, mais aussi sur des choses plus récentes avec première fois, dernière fois. Premier doute. Entrepreneurial, moment où t'es dans Certideal. Alors, je sais que c'est pas ta première boîte, mais t'es dans Certideal, on va rester là-dessus. Et là, il y a un doute profond sur un sujet.
Au tout début, Certideal, c'était une plateforme de mise en... Ça a duré très peu de temps, mais c'était une plateforme de mise en relation entre des particuliers. Donc, ça a commencé comme ça. C'était une plateforme C2C avec de l'intermédiation physique. Donc, en gros, un particulier voulait vendre son produit, nous l'envoyait et nous, on le vendait pour lui. Et très rapidement, on a commencé à se rendre compte qu'on arrivait à vendre des téléphones, mais par contre, le particulier l'avait déjà vendu ailleurs.
Ouais.
Donc, il n'avait pas du
donc
tout...
Déception du tout. De l'autre
donc,
côté.
Déception. Donc, on a dû pivoter, mais c'était super rapide. Ça a duré peut-être 3 mois, cette phase.
Mais tu l'as eu aussi, ton pivot, tu peux le dire.
Exactement. Et on a très vite pivoté vers une plateforme sur laquelle on achetait directement les produits et on a arrêté la mise en relation.
Donc, avec... Certes, la problématique du stock, mais la garantie d'avoir un produit.
La garantie de vendre et d'avoir ce qu'on a. Et ça a été on a très très rapidement compris que le sujet, il y avait effectivement un sujet client, mais aussi un sujet offre. Et on s'est retrouvé dans plein de situations très très embarrassantes où le téléphone, on n'avait pas le téléphone. Donc on a pivoté en 3 mois.
Dernier renoncement.
On a renoncé à l'idée potentiellement de... à beaucoup d'extensions. Ça veut dire, on a renoncé, je sais, pendant... On a eu des périodes où, effectivement, on s'était dit, on va faire toute l'Europe dans les 2 ans et aller peut-être aux États-Unis. Ça, c'est des sujets que, pour l'instant, on a rapidement rationalisé.
À défaut de renoncer, t'as mis en stand-by.
Ouais, on a mis une stratégie. On souhaite être très fort dans les pays où on est et continuer. Et donc, on a rationalisé. Après, ça n'empêche que c'est quand même... des énormes pays, on est dans des très 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 grosses géographies.
T'as parlé de 7 pays en...
On est en 7 pays. On distribue en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Suède, en Irlande et en Belgique.
Okay. Alors, première merde à l'international. Je peux pas croire qu'il n'y en ait pas eu.
Si, il y en a eu plein. La première merde à l'international qu'on a eue, je pense qu'on a eu plein de merde, mais en même temps, on n'a pas eu une merde si spécifique que ça. Parce que on a la chance d'avoir un produit, vous savez qu'on se vend, on vend des smartphones qui sont les mêmes quasiment sur toute la planète. Donc en fait, c'est pour nous, c'est un peu la beauté de notre modèle, c'est qu'ouvrir un pays, c'est du marketing, c'est d'avoir une personne qui va effectivement être un country manager, gérer du SAV, gérer de l'avant-vente, traduire, organiser la logistique, mais ensuite, en fait, c'est assez facile. il n'y a pas de grosses barrières, en fait, dès qu'on est dans l'espace de l'Union européenne. Donc ça, c'est... Après, je pense que là... Non, les problèmes à l'international, c'est principalement le recrutement, parce qu'on recrute tous ces... Nos équipes sont en France. Donc les Espagnols sont en France. On a plein d'Espagnols au bureau, des Italiens au bureau. Et ça, effectivement, on a eu régulièrement des sujets. On a dû avoir un moment où on avait un problème, par exemple, au SAV dans un pays, on n'avait plus personne. Ça a dû arriver, mais c'est fini.
On revient au sujet de l'humain, de l'équipe. Ok, dernière nuit blanche.
Ouais, ça arrive quand même assez souvent.
Encore.
Ouais, ça arrive. Ouais. Ça arrive assez souvent. Nuit blanche totale, non, mais.
Mes
petites nuits, franchement, c'est régulier. Ça arrive. Il y en a bien une ou deux par mois, quoi.
Je veux pas savoir. Ouais. Ça m'intéresse d'avoir le rythme, parce que je m'attendais à moins. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est pourquoi.
Pourquoi ? C'est parce que on a des sujets, soit c'est des trucs positifs, soit c'est des petits problèmes à régler qui peuvent te prendre la tête, qui peuvent te préoccuper. C'est aussi, on va y venir, aussi une gestion peut-être des écrans qui n'est pas toujours exceptionnelle, où on peut terminer tard sur son téléphone ou terminer tard sur un appel d'offres ou sur plein d'excitants, on va dire. Et c'est vrai que ça revient aussi à l'idée d'être un peu tout le temps au travail, mais en même temps, c'est ce qu'on cherche. Donc, ça arrive régulièrement. Après, des nuits blanches, c'est assez rare. Mais se coucher tard, avoir un peu du mal à dormir, ça arrive souvent. Mais je pense que c'est... J'admire... Je sais qu'on a des entrepreneurs qui arrivent
À figer le temps.
À figer le temps, et j'en connais. À figer le temps, et j'en connais. Moi, je suis probablement... un peu plus dans la réflexion perpétuelle.
Et alors justement, je fais la parenthèse là-dessus, mais t'en connais, est-ce que c'est quelque chose que t'espérerais pour toi, et auquel cas est-ce que t'échanges avec eux, est-ce que tu prends des tips que tu n'appliques pas, ou est-ce que c'est simplement ton caractère, et ça te va très bien comme ça?
Non, mais c'est bien. D'être capable de vraiment passer à autre chose, je pense que c'est bien. Après, moi, je pense que ça ne me correspond pas trop. Donc non, ça va pas changer. Je crois pas. Après, c'est vrai qu'on peut tout changer avec de la discipline. Donc le fait de lire avant de dormir, ça aide à dormir. Enfin, c'est simple, c'est clair, ça marche. Donc il faut le faire. Après, il y a aussi des moments, on va dire les réflexions nocturnes. On trouve des solutions, où il se passe des trucs, où on n'est pas en train d'être dans l'urgence, parce qu'il va rien se passer de toute manière à ce moment-là. Et ça aussi, moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc, après, j'ai pas beaucoup besoin de dormir. Donc, ça va.
Pour l'instant. T'as quel âge ?
Moi, j'ai 42 ans.
Ah ouais, non, tu tiens bien.
Ah, merci.
Ouais. Moi, ça commence à être plus dur, là, les petites nuits. Ouais. On est pour enchaîner sur les premières fois, on a plein de jeunes entrepreneurs qui nous écoutent. Et je pense que la question qui va suivre les aidera peut-être.
Vous avez un message.
Salut, yo. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que j'ai monté mon entreprise Monga. Est-ce que, en tant qu'entrepreneur et aussi en tant que grand frère, tu aurais un conseil, le conseil que tu ne m'as jamais donné ?
C'est pas sympa de l'avoir gardé pour toi tout ce temps-là. Ouais. J'aime bien cette question parce qu'à la fois, il a réussi à faire un peu de placement de produits sur sa boîte. Bien joué. Donc, c'est ton frère.
C'est mon petit frère.
Et l'autre raison, c'est que là, tu peux pas te détourner de la question et tu vas devoir livrer un conseil qu'on n'a peut-être pas toujours entendu et en tout cas que tu lui as pas encore donné.
Ouais. Bon, alors, pour le coup, mon petit frère, il a effectivement... petit frère, il est grand maintenant. il a monté aussi une plateforme qui, lui, gère de la gestion de travaux pour des professionnels. Et pour le coup, ça cartonne. Il n'a pas besoin de beaucoup de conseils. Je pense qu'il sera... Il va pas tarder à rejoindre un plateau comme celui-là.
Ouais.
Le conseil principal, je pense, peut-être même que j'en aurais deux. Le premier, c'est d'être capable de prendre du recul tout le temps. Parce qu'effectivement, la vie d'une boîte, c'est des succès et des échecs. Et les échecs, souvent, peuvent paraître plus importants que les succès. Mais en fait, c'est pas le cas. Et puis finalement, quand on prend du recul et qu'on se détend, tout se passe bien. Et je pense que le plus important, c'est d'être capable de relativiser, d'analyser et gérer ses problèmes. Parce qu'il y en a eu, il va en avoir d'autres.
C'est avant que tu livres le deuxième, ça produit quoi comme effet de ne pas relativiser ?
Ça produit, je pense, de faire des erreurs. Déjà, puisqu'on va prendre des décisions qui vont être un peu précipitées, un peu rapides. Et surtout, de dramatiser des situations qui ne sont pas. Donc,
ça défocus.
Ouais, ça défocus. Et puis surtout, des petites galères, il y en a souvent. Ils ont l'air énormes, mais en fait, finalement, ça va. Et je pense que le plus important, c'est de prendre un peu de recul et d'être capable de... Ça, on le voit tout le temps. T'es bien. Dès qu'on a des mauvaises nouvelles, marché, régulation, au début... Et puis finalement, en fait, ça va. Finalement, on trouve des solutions. On gère, c'est un peu aussi notre boulot. C'est un peu, j'ai envie de dire, notre talent. C'est ce qu'il faut qu'on sache en partie faire. C'est avoir une vision et puis gérer le quotidien. Et donc ça veut dire
s'adapter
de toujours
aux
prendre...
nouveaux paramètres.
Ouais. Ouais. Et ça, j'ai envie de dire, de toujours, toujours prendre du recul. Et ensuite, et ça, c'est un peu plus... J'aurais peut-être pas dit ça avant parce qu'il faut s'adapter aux époques. Mais là, maintenant, je pense qu'il a la capacité d'être un peu plus patient, de prendre le temps. Et c'est vrai qu'en 2021 ou 2020, il fallait aller vite.
Ouais.
Et j'ai jamais vraiment adoré cette course qui d'ailleurs se termine mal.
Pour certains, ouais.
Qui se termine mal pour certains, pour beaucoup même. Enfin, on est peut-être au début de cette course à la croissance. Aujourd'hui, je pense que c'est plus le cas. Et je pense qu'il faut prendre le temps de. Enfin, faut avoir une cadence importante, mais contrôlée. Et de prendre le temps de prendre des bonnes décisions.
J'ai un entrepreneur qui disait le VC game, c'est rouler à 180 même dans les virages.
Ça dépend des VC. Ça dépend des VC, mais oui. On le voit. Enfin, on voit très bien aujourd'hui que les boîtes qui ont levé de l'argent en 2021 sur des montants
astronomiques.
Absolument astronomiques et qui doivent, a priori, quand on calcule lever en 2024 pour pouvoir survivre, on a des catastrophes. Donc, c'est pas le VC qui va... Enfin, le VC paye, évidemment, mais l'entrepreneur, pour lui, c'est...
C'est une catastrophe.
C'est une catastrophe, et en plus de ça, c'est lui qui paye à peu près tout, mais il n'était pas tout seul, parce qu'effectivement, quand on te demande de faire x2 tous les deux mois, il n'y a pas de magie là-dedans. Donc, en général, ça implique un recrutement débile, des dépenses marketing qui n'ont pas de relation avec ton... Avec le produit. Bon.
Alors, tu n'as pas levé des sommes astronomiques, néanmoins, tu as levé pas mal. Donc, tu as été aussi un moment dans cette course à la croissance, pas tant que ça.
Si, on a besoin de faire beaucoup de croissance. Après, on a fait entre 70 et 100% de croissance chaque année, en gros. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup, mais on a des boîtes dont l'ambition était de faire 3 fois, 4 fois par an. On n'a jamais été. Et je pense que c'est un peu le caractère qu'on a, Laure et moi, on n'a jamais été des gros burners, on n'a jamais brûlé notre cash, on n'a jamais recruté à outrance, on a toujours eu des équipes, on a toujours pensé de toute manière que c'était largement préférable d'avoir des petites équipes très fortes que des grandes équipes où on ne connaît plus les gens et on se retrouve avec des doublons très vite.
Donc même avec plein. Des millions sur le compte, ouais. tu t'es pas dit il faut qu'on le dépense vite.
Non, mais en plus on a nos investisseurs qui les choisissait un peu comme ça. Et ils n'ont jamais eu cette vision. Donc, on avait des débats. Hein. Donc, effectivement, à un moment, en 2021, ce qu'il faut accélérer, comment il faut accélérer. Donc, voilà, on a quand même eu une vraie croissance. Mais on n'a jamais eu la volonté de partir dans moi, ce que j'appelle du n'importe quoi. Mais on ne l'a jamais fait. On ne l'a jamais fait. Aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pense que d'ailleurs, l'histoire nous donne raison. On est complètement indépendant financièrement, on n'a jamais eu de problème d'argent.
Vous êtes encore majoritaire avec l'or ?
Non.
On a,
enfin, c'est compliqué, mais. non, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent s'enclencher, qui s'enclenchent. Les notions de droit de vote, c'est pas les mêmes.
Ouais.
Mais c'est technique, mais aujourd'hui, on a quand même beaucoup de contrôle.
Sur ces sujets, justement, tu conseilles quoi à un entrepreneur qui a besoin quand même de fonds pour lever, pour accélérer parce que l'idée, c'est pas de dire ne lever plus non plus.
Non, bien sûr.
Mais par contre, il y a toujours la question de comment tu lèves, pourquoi tu lèves. 2-3 conseils sur le sujet.
Déjà, faut vraiment ce point-là, il est important. Ça veut dire qu'il faut quand même vraiment en avoir besoin. Ça veut dire lever pour lever parce que l'ego trip de la levée de fonds. Et ça, je pense que nous, on l'a jamais eu, par exemple, mais aussi,
ça se comprend, cet ego trip, parce que ça te donne accès tout de suite à de l'endorphine, la dopamine, je sais plus, sur LinkedIn, en voyant le nombre de likes, ça te donne accès à des unes de médias, c'est des choses
mais,
à
mais, mais ouais. Oui, c'est vrai, mais en fait, c'est vrai, mais c'est
mais la visibilité
c'est assez
que ça
court,
apporte,
hein, mais c'est
ouais,
assez
voilà.
court, enfin, c'est des moments qui sont, effectivement, pendant 3-4 jours, mais finalement, ça, on passe très vite à autre chose. Et ça, c'est le cas pour la seule réalité, c'est la réalité c'est la réalité business. Donc aujourd'hui, même, je sais pas, là, on parlait du FT120, c'est pareil. On a ça sur 5-6 jours, on a une espèce de sur, on invite à l'Elysée. Mais ensuite, on passe à autre chose.
N'empêche que dans tes postes, c'est ceux qui ont le mieux marché.
C'est possible. mais c'est possible. Mais
ça ne fait pas tout.
Mais c'est pas ça qui fait que tes équipes vont être heureuses de venir travailler, que tes clients vont te choisir. Ça fait même pas grand chose. Enfin, pour moi, l'intérêt de lever de l'argent, c'est l'argent et effectivement un peu d'aide. Si jamais, ça va dépendre du niveau de maturité des dirigeants,
des investisseurs.
Donc moi, je pense quand même qu'il faut vraiment jauger le besoin. Il faut vraiment en avoir besoin. Et puis aussi, il faut avoir un business qui s'y prête. Un business qui s'y prête, c'est un business où tu peux, où t'intéresses à une taille de marché qui est très élevée. Voilà. Globalement, c'est ça, et dans lequel tu peux effectivement, t'as une raison de répondre à quelque chose aujourd'hui qui a un problème de ce marché. Pas un problème que t'as créé toi-même, globalement. Et ensuite, bah après, il va y avoir plein de méthodes. Il y a des gens qui arrivent à le faire seul. Moi, je pense qu'il faut essayer d'être accompagné parce qu'on n'a pas forcément le temps de tout faire tout seul. Il faut bien le faire, il faut bien choisir ses actionnaires. Nous, on a la chance d'avoir toujours des investisseurs avec qui on avait des très bonnes relations. Je pense que ça nous a beaucoup aidé.
Je ne sais pas qui a levé avant qui sur les montants là, dans tous les acteurs concurrents sur le marché. Déjà, est-ce que vous étiez les premiers à lever ou pas? Du coup, ça m'amène à cette question. Comment tu embarques tes investisseurs quand en face, alors est-ce que c'est une aide de dire, regarde, ils ont levé avec telle thèse, donc c'est bien qu'il y ait un marché et voilà toutes les raisons de nous suivre, ou est-ce qu'au contraire c'est plus compliqué parce que dans cette course il y a aussi la notion de très vite prendre la place de numéro 1. Dans les négos avec tes investisseurs, est-ce que il y en a que ça refroidit, d'autres que ça excite?
Il y a les deux. Maintenant, moi, je peux le dire que tous ceux qui ont pensé qu'effectivement ça serait un problème, ils sont trompés. Mais on a les deux. On a eu des cas d'acteurs qui nous disaient « Mais comment vous allez faire? C'est pas possible. » Et on a ceux, effectivement, qui ont été rassurés par le fait qu'on a un marché, qu'on a un moyen d'adresser qui sont un petit peu différemment, qui ont compris qu'on allait tirer notre épingle du jeu. Et ça va dépendre du profil des investisseurs. Ça va dépendre aussi de notre relation avec eux, du fit. Est-ce qu'ils croient en nous? Je pense qu'il y a beaucoup d'humains quand même dans le fond. Après, de base, on adresse à un marché qui est énorme et on a toujours montré qu'on est arrivé à croître rapidement. Donc ça a quand même toujours été un facteur de simplification du process.
On parle des investisseurs et justement, il y en a un qui a un message pour toi. Il n'est pas content. Non, on l'écoute. Il fait partie de ceux qui ne se sont pas trompés.
Vous avez un message.
Salut Johan, ici Mohamed. Ça fait maintenant 7 ans qu'on s'est rencontrés sur la première levée de fonds de CertiDeal, à une époque où tu faisais quasiment des livraisons de téléphone toi-même. Comme tu le sais, la recherche d'impact positif est un des moteurs de notre investissement. On s'est beaucoup parlé de l'impact environnemental de votre business autour du reconditionnement de smartphones, mais j'ai aussi appris que tu avais une grosse ambition sur le terrain social et tu as à cœur de faire de la filière du reconditionné un tremplin pour certains jeunes. Tu peux nous en dire plus?
Déjà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur Mohamed?
Donc Mohamed, c'est Mohamed Abdeslam, c'est le gérant du fonds Maïf Avenir. Alors Mohamed en fait a investi chez nous deux fois, puisque historiquement il était chez Citizen Capital, mais Citizen Capital c'est un fonds impact, et dans notre première levée, c'était lui qui avait porté le sujet CertiDeal. Il avait porté fort d'ailleurs, enfin c'était vraiment son sujet, et donc il a investi chez nous, et ensuite lorsqu'il a rejoint Maïf, il a changé, il est passé chez Maïf Avenir, et là il a re-investi chez nous, sauf que cette fois-ci en étant lead, de notre tour qu'on a fait justement en 2020. Donc on se connaît depuis longtemps.
Ça crée du lien.
Ça crée du lien. Ouais, ça crée du lien.
Alors pour répondre à cette question.
Bah, alors pareil, on a un sujet qui est. On a créé ce qu'on appelle par exemple une Certi Academy. La Certi Academy, c'est une académie 100% gratuite qui est réalisée chez nous. C'est une école où en fait on apprend à des jeunes qui sont dans des situations de détresse. Donc ils ont plein de critères pour répondre pour être éligible, mais de détresse, de réinsertion, enfin qui n'ont pas de job, pas de revenus, qui n'ont
pas de diplôme,
pour leur apprendre à devenir réparateur de téléphone. Donc c'est une formation, ça dure 16 semaines, qui est 100% gratuite, qui est prise en charge par nos équipes, qui est faite chez nous dans un local adapté, et on forme des équipes, globalement des franciliens, à ces métiers, parce que en fait, Ce qui est top dans la réparation, c'est que c'est un métier qui s'apprend relativement rapidement, puisqu'au bout de, justement, en donnant un peu de soi, en faisant un petit peu en plus de trucs à la maison, en s'entraînant, en 4-5 mois, on arrive à devenir un réparateur débutant, et puis qui paye pas mal. Enfin, on arrive à avoir à gagner très rapidement, 24 000 euros par an, c'est rapide, ça vient vite, et du coup, et puis il y a de la demande. Et donc, en fait, la Set Academy, c'est pas du tout pour certitude. C'est vraiment quelque chose qui est complètement...
Ils peuvent partir ailleurs, se lancer à leur compte.
À leur compte, en magasin. On a aussi fait des communiqués avec WeFix pour leur proposer des... Nous, de toute manière, on n'a pas la capacité de tous les embaucher, on n'a pas suffisamment de flux. Donc, on essaie de former beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes. Pour Laure et moi, ça a toujours été quelque chose de fondamental d'avoir un impact, encore plus qu'un impact environnemental, un impact sociétal. Donc, ça a été un peu l'histoire de la boîte, puisqu'on a aujourd'hui combien des gens chez nous qui ont commencé en faisant... en préparateur de commandes, qui finalement aujourd'hui sont réparateurs seniors. Ils ont tout appris chez nous et puis ils gagnent bien leur vie. Et puis ça nous fait, à chaque fois, ça nous fait super plaisir. C'est un vrai truc d'entrepreneur pour nous de voir qu'on peut avoir de l'impact. Et puis c'est aussi grâce à eux. C'est que c'est des bosseurs, ils ont appris, ils sont mis à fond, mais il faut leur donner, faut leur permettre de le faire. Donc ça, c'est la Certi Academy. C'est que c'est un vrai projet pour nous.
C'est combien de jeunes comme ça que...
On doit être à une centaine. On doit être à une centaine qui sont passés, mais puis ça continue. Enfin, c'est tout le temps. Et en fait, on s'est même rendu compte qu'il y en a qui ne faisaient pas réparateur, mais qui finalement trouvaient un job, mais qui n'a rien à voir.
Mais ça les avait remis dans une dynamique.
Mais en fait, ils sont remis dans un cycle. Ils se remettent en main, ils se reprennent en main. Ils ont un peu de devoir parce qu'on leur demande de regarder des tutos sur Internet. Donc, ils se remettent dans un... Après, il y a aussi de l'échec. Hein. On essaye d'avoir cet impact et on pense que le reconditionner, mais globalement, la réparation dans le sens large, c'est un super vecteur parce qu'on a de la demande, ça paye et c'est accessible. Donc,
demain, ça peut être sur plein d'autres machines.
Après, ils peuvent apprendre dès qu'ils savent réparer, ils peuvent apprendre à réparer des box, ouais. ils peuvent, bien sûr.
Alors, il y a le côté très social de le faire parce que ça met du sens. Mmh. J'imagine aussi que ça crée du sens pour les équipes.
Complètement. Complètement.
Ça donne lieu à de la visibilité dans des médias aussi.
Un peu.
Pas assez.
Je sais pas.
Pas tant que ça.
Pas tant que ça, mais de toute manière, c'est pas vraiment le. C'est pas forcément le but, de toute manière. Mais après, on en parle un peu.
Mais même si c'est pas le but, ouais. C'est pour ça que je trouve intéressant la question de Mohamed et puis de prolonger un peu là-dessus. C'est le fait de le faire connaître, une initiative comme celle-ci, au-delà. Du côté chouette pour Certideal, c'est aussi que ça pose des questions à d'autres. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon échelle, pour contribuer à sortir des gens de là où ils sont, ou les amener à un avenir meilleur.
Ça, je pense que c'est un vrai enjeu d'entrepreneur. Enfin, après, ça va être chacun de le ressentir comme il le souhaite. Mais pour moi, effectivement, si jamais tu es entrepreneur et que tu n'as pas d'impact sociétal, tu rates un truc.
Ça demande combien de temps à mettre en place ? Ça mobilise combien de temps tes équipes? À quel point chacun là qui nous écoute peut se dire ah ben oui, moi je suis dans tel domaine, je pourrais peut-être laisser les studios à trois personnes qui veulent se lancer dans l'animation, la création de contenu, bref, tu vois, on pourrait imaginer des choses toutes bêtes de notre côté. Ça, chez vous, ça demande quoi?
Ça demande du temps quand même.
Ouais.
En fait, la Certi Academy, ça prend du temps parce qu'il faut déjà... Il y a deux sujets. Il y a préparer les contenus, trouver les équipes. Ça a été assez rapide. On a trouvé les équipes assez rapidement qui avaient envie de le faire. Mais il y a les équipes techniques, il y a les équipes qui vont être plus liées aussi au contenu parce que malgré tout, on crée du contenu autour, on fait des films, on fait même des tutos pour eux. Après, on leur fournit de l'aide pour qu'ils puissent...
Continuer à progresser.
Donc ça, il y a un petit peu de travail là-dessus, mais je pense qu'on aurait pu le faire plus rapidement hein, si on avait voulu, mais on a pris le temps de bien le faire. On aurait pu y aller beaucoup plus rapidement si on vous souhaitait, mais on avait pris le temps de bien le faire. Et ensuite, effectivement, il va falloir surtout trouver des candidats. C'est ça qui est le plus...
Chronophage.
C'est ça qui est difficile. Et donc pour ça, on s'est aidé. Donc on l'a fait avec une association qui s'appelle FAIR, par exemple, qui nous a amené des candidats. Mais du coup, il faut contacter FAIR, il faut les voir, il faut prendre du temps... Donc il y a quand même un travail de mise en place.
Sur la mise en place, oui, où c'est...
Sur la mise en place pour pouvoir s'assurer. Parce qu'un des dangers qu'on avait, c'était d'avoir de lancer le programme, d'avoir des candidats. Finalement, au fur et à mesure des semaines, il y en a de moins en moins. À la fin, il y en a deux.
Ouais, et puis qui s'y retrouvent pas,
générer. Ouais, et puis le, du coup, les équipes sont moins embarquées. Enfin, donc il fallait quand même qu'on ait une sélection. Ça, c'est pas notre métier. Nous, on n'est pas capable d'aller trouver des jeunes comme ça rapidement. Leur faire passer un petit peu d'entretien, être sûr qu'ils sont vraiment motivés, qu'ils ont envie d'aller au bout, qu'il y a une vraie chance que ça donne quelque chose quand même. Mmh. Donc il y a quand même du boulot préparatoire pour s'entourer d'un écosystème favorable à la réussite du projet. Mais bon, mais je pense que c'est important de le faire. Et après, ça s'y prête pas forcément dans tous les métiers. Hein. Mais nous, on l'a fait comme ça et on va probablement aller encore plus loin. C'est un projet qu'on va développer.
Et ben, tu me parles de ton projet Super Transition. Je t'ai donné les pleins pouvoirs, tu avais un sujet, et je crois que tu l'as brièvement effleuré tout à l'heure en disant qu'on allait en parler, c'est le moment. On parle d'écran, on parle d'enfant.
Alors, je ne sais pas si c'est un sujet de président, mais en tout cas, c'est un sujet...
que je national.
Un sujet national, et c'est je trouve que un des sujets sur lesquels, dont on parle, hein, mais dont on parle probablement pas assez, sur lesquels il n'y a pas de... Je ne sais pas s'il y a une vraie prise de conscience, c'est la relation des enfants avec les écrans. C'est un sujet qui me touche. Bon, alors moi, j'ai des enfants et je fais très attention.
Quel âge ?
Alors, j'ai 8 ans, 5 ans, 5 ans, 6 mois.
Ah ouais ?
Ouais.
T'as des jumeaux ?
Oh. J'ai des jumeaux. Ouais.
Et t'en as fait un quatrième, ouais.
Oui, mais non, pas 6 mois, plus, c'est 8 mois. C'est 9 mois même. Tu savais quoi je fais ? Alors, ils sont encore petits, donc c'est pas encore. C'est pas difficile.
Ouais, mais 5 ans, 8 ans, si, ça commence à se poser.
Mais c'est qu'ils ont accès à aucun appareil électronique. Ils peuvent regarder un film, un dessin animé une fois par semaine, ou parfois deux fois par semaine, mais ça s'arrête là. Et je pense que c'est destructeur pour les enfants, que c'est très important d'éviter que les enfants aient un accès à des écrans LCD, quoi, en gros. Ouais. Qui leur proposent des formats très courts, très excitants, qui leur pourrissent la concentration, qui, je crois aujourd'hui, on le sait, ont un impact important sur leur développement cognitif. Et je ne sais pas exactement comment on pourrait implémenter ça, mais par exemple, moi, je suis persuadé qu'on doit interdire complètement le smartphone jusqu'au collège.
Ce qui est en plus des sujets collège-lycée, sur
mais
le
même
harcèlement...
Même au lycée, jusqu'au lycée, je pense que potentiellement, avoir un smartphone dans son sac, je pense que c'est des... Il faut commencer à y réfléchir. Et quand on voit l'impact que ça peut avoir sur nous, en fait, et sur moi, ou sur en termes de perte de concentration, j'ose même pas imaginer ce que ça peut être pour un gosse. Donc, c'est un sujet sur qui me touche. Et si jamais j'avais les pleins pouvoirs, je mettrais en tout cas une incitation très forte, au moins à éduquer les parents, et à les informer des dangers que ça représente pour leur gosse. Voilà.
J'invite tous nos auditeurs, s'ils sont pas déjà abonnés, à s'abonner à notre newsletter, Les Nouveaux Narrateurs, où on fait plancher un entrepreneur toutes les deux semaines sur un mot. Et en l'occurrence, on avait Philippe Courreau qui avait planché sur deux mots, sur l'intelligence artificielle. Et en fait, il évoquait le fait que, bah, typiquement TikTok, parce que tu as l'écran en lui-même, et puis après, tu as le contenu que tu as commencé à évoquer, qu'on peut y injecter, et que le TikTok chinois, n'était pas le même que le TikTok pour les Européens, les Américains, ou côté chinois, donc là d'où vient TikTok, on avait des contenus plutôt pédagogiques, informatifs, éducatifs, et où chez nous, l'algorithme a plutôt tendance à nous pousser des contenus divertissants, voire appauvrissants.
Voire débilisants, ouais.
Voilà,
ouais.
Je cherchais le mot.
Non, mais t'aimes bien ça, il y a de la littérature dessus. Ça se sait. Et puis, de toute manière.
Ça se sait, mais pourtant, on continue de beaucoup consommer ces médias.
Non, mais après, en tant qu'adulte, on fait ce qu'on veut. Mais ensuite, on s'en rend compte, c'est rapide en fait. La difficulté aujourd'hui qu'a un adulte pour pouvoir lire un bouquin et prendre du temps et être concentré pendant longtemps sur une œuvre ou même sur un film qui va durer 2 heures, ou alors si on prend un bouquin, c'est 15 heures. Imaginons ce que ça représente pour un enfant qui l'a jamais fait. Et comment c'est possible qu'il va préférer, qu'il puisse préférer un jour aller passer 7 heures dans sa chambre à lire un livre tous les soirs, enfin une heure tous les soirs, plutôt que d'être sur son téléphone, à avoir des séquences de 20 secondes avec des trucs débiles, mais qui vont forcément l'exciter, l'intéresser et vouloir continuer. C'est impossible. Donc en fait, effectivement, il y a un rôle des parents qui est très important. Donc il y a tous les outils de contrôle parental qui marche bien, qui...
Oui.
Ça marche. Après, c'est aux parents de le faire.
Ouais,
c'est aux parents de le faire et c'est aux parents
Tu peux t'inscrire sur TikTok à 10 ans, disant que t'en as 13.
Non, mais les parents peuvent bloquer le téléphone.
Ouais, ouais. Ça, c'est non, le... mais bien sûr, ah,
oui.
Il y a, mais...
Oui, oui, oui. Ah, bien sûr. Non, 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 c'est... de contrôle parental, c'est, ouais. Le rôle, c'est le rôle des parents. Mais c'est sûr que l'impact, je le trouve dévastateur. Et pour moi, c'est un vrai enjeu de société.
Il faudrait faire une vraie loi.
Une loi, je ne sais pas, parce que c'est très compliqué de s'immiscer à ce point dans la vie des gens. Mais en tout cas, à l'école, par exemple, je pense que le téléphone n'a pas lieu d'être. Dans les... Au moins jusqu'au collège, mais même au collège, pour moi, jusqu'à la seconde, ce n'est pas forcément indispensable.
Je ne veux pas dire une bêtise, mais mes filles sont trop petites, mais ce n'est pas déjà interdit au collège les...
Non, ils ont... au lycée plutôt.
Excuse-moi. Au lycée, oui.
Ouais. Au lycée, je sais. Bon, bah après, au lycée, bon, ça va dépendre de quel âge tu as au lycée, mais jusqu'à 14 ans, je pense que ne pas avoir de téléphone, en tout cas dans son sac, quoi. Tu vois, mais de pas vraiment pouvoir le sortir, de pas s'en servir. Et alors après, on va arriver sur les sujets d'IA, mais ça, c'est encore autre chose parce que c'est pas le même problème. C'est un problème de simplification des
algos.
Des problèmes posés aux enfants. Non, non, le fait de pouvoir faire des exercices sur ChatGPT. Mais surtout, pour moi, le truc de l'écran, c'est un sujet qui me touche.
Eh bien, je te propose de rester sur quelque chose, en tout cas, qui t'a touché. C'est le moment de ta claque.
Waouh !
Alors là, la parole est à toi, mon cher.
Claque professionnelle. Alors effectivement, dans notre ancienne boîte, donc en fait, le principe de la société dans laquelle je travaillais déjà avec Laure à l'époque, donc c'était pas notre boîte, mais on l'a co-dirigée, on vendait des solutions de réduction de coûts des appels téléphoniques internationaux.
Ok.
Et un jour, effectivement, on vendait ça à des entreprises, un peu à des particuliers aussi, et un jour, effectivement, on a vu... notamment l'arrivée de Free Mobile, qui rendait ça quasiment gratuit. Et donc ça, c'était une vraie claque pro. Et effectivement, à un moment, on s'est dit, waouh, ça va être très difficile. Et en fait, justement, on s'est rendu compte là, enfin, je me suis rendu compte là sur le temps un peu long, qu'en fait, les claques pro, c'est jamais vraiment des claques. Sauf si vraiment, on arrive à un moment où on rentre dans la difficulté personnelle. Mais sinon, c'est jamais des claques. Qu'elles sont toujours relatives, que les claques, elles sont perso dans la vie. Que les claques, c'est la famille, la santé et c'est à peu près tout. Et que les problèmes pro, ils gèrent, parce que même ce problème-là, qui a été un problème, c'était le coup de massue. On vend un truc payant et ça peut devenir gratuit. Bah, finalement, on l'a géré. On s'est mis à faire du roaming. Donc, c'était des appels depuis l'étranger. On s'est mis à...
Ah, c'est
à...
vous
Non, mais justement, à faire des solutions de roaming moins chères.
Ok.
Donc ça, pour le coup, les opérateurs le faisaient pas...
C'est jusqu'ici, je t'aimais beaucoup.
Non, hein. non, justement, à réduire le coût, la facture, on vendait une solution d'économie. Donc on a accentué le roaming, on a visé des clients différents, on a développé des solutions différentes et on s'en est sorti, la boîte s'est vendue correctement. Et au final, après, ça nous a permis en plus, nous, de se lancer dans notre propre aventure. Aujourd'hui, en plus, Free, c'est un partenaire fort. Donc au final, tout finalement dedans, c'est bien fini. Et ça me fait dire, un peu le même sujet tout à l'heure, qu'il faut toujours prendre un temps, recul, analyser le problème et trouver des solutions. Et alors, il y a des cas, je pense, où ça ne marche pas. Mais dans la grande majorité des cas, on va trouver quelque chose et ça ne sera jamais si grave que ça.
Plus que du recul, c'est de se dire, c'est pro.
Et c'est pro.
Si ça ne touche pas le perso.
Ouais, dès lors que exactement, ça ne touche pas le perso, ou bien que ça ne tombe pas dans des sujets très compliqués de personnel.
Je suis en train de regarder le sujet de ta carte blanche. Je crois qu'on va voir très grand et parler d'humanité.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
T'as levé les yeux au ciel, en fait, on le voit peut-être plus petit.
Ouais. Non, mais l'humanité, on parle de plus en plus d'IA et on parle de plus en plus de la possibilité de voir émerger des boîtes qui deviennent des licornes avec, et c'est probable, peut-être ça va arriver d'ailleurs, mais qui sont unipersonnelles, qui ont un fondateur et seul salarié. Et en fait, ça, pour moi, c'est l'inverse de ce que je veux faire. Donc, la création pour moi d'une société, donc on ne cherche pas à avoir des équipes infinies, mais justement, aujourd'hui, Certidil, c'est vraiment une société au sens sémantique du terme. Donc, quand je dis c'est presque, c'est franchement, c'est pas loin d'être une famille. Et les relations entre les gens, leur évolution, c'est un des leur bien-être aussi, leur mal-être quand ça arrive, parce que ça arrive. C'est un des sujets fondamentaux pour moi de la réussite d'un entrepreneur, en tout cas de mon équilibre d'entrepreneur. Et j'ai du mal à imaginer, je pense que quand on monte une boîte justement qui a pour objectif d'être le moins possible, ben en fait on rate quelque chose. Parce que son impact sur justement un environnement court, c'est, je pense, fondamental dans l'épanouissement personnel de l'entrepreneur. Et donc c'est pas un coup de gueule parce que c'est l'évolution du monde et effectivement je peux comprendre très bien qu'une solution techno puisse être utilisée par des millions de personnes sans avoir besoin de personne. Mais c'est vrai que ça correspond pas du tout à l'idée que je me fais d'entreprise, pas du tout à l'idée que je me fais de la réussite professionnelle, la réussite entrepreneuriale. Et j'espère continuer à monter des projets qui requièrent toujours des équipes pas trop grosses, parce que ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite, mais en tout cas qui créent du lien, qui ont un impact et qui font un peu bouger la vie, qui changent un peu la vie des gens.
Puis si on extrapole, si demain il y a 1000 boîtes dans le monde qui font tourner à peu près toute la machine gérée par seulement 1000 personnes, à limite on peut se dire que ça va nous laisser du temps à tous, mais il va falloir réinventer un modèle de société et de gestion d'humain et de gestion du lien aussi.
Gestion du lien, gestion de l'humain, et puis aussi gestion des ressources.
Parce
qu'il va falloir trouver une solution pour que tout le monde puisse vivre. Mais bon, ça c'est possible. D'ailleurs, je ne sais pas si on arrivera à ce niveau-là, mais on sait que de toute manière, il y aura de l'impact et qu'il va y avoir beaucoup de métiers qui vont disparaître, qui vont probablement devoir se réinventer ou en tout cas s'orienter différemment. Est-ce que ce sera positif, comme ça a toujours été le cas, a priori pour l'instant, sur les évolutions tech, où globalement, on retire des tâches pénibles à des humains et pourquoi pas se dire qu'en fait, et maintenant, est-ce que tout le monde est capable de faire des tâches complexes? Je ne sais pas, on verra. Mais c'est possible effectivement qu'on passe un cap. Mais mon sujet, c'est pas vraiment l'IA en général.
Bien sûr,
c'est plus le
construire.
Le fait que je pense que c'est un sujet très important dans la vie d'un entrepreneur de réussir à se dire que ok, il y a l'argent, c'est très important. Il y a la relation, il y a les clients, c'est aussi important. Mais au fait d'avoir un impact et de se voir qu'il y a des gens qui évoluent à côté de toi et qui ont changé parce que ils ont changé, ils ont grandi un jour, ils partiront un jour.
Toi-même, tu changes à leur contact.
Ouais, c'est ça. Et ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'il y a effectivement un impact sur nous et puis nous font progresser. C'est vrai que c'est un des aspects les plus poignants de la vie, en tout cas, notre vie d'entrepreneur.
C'est un sujet qui nous a valu quelques larmes il y a quelques épisodes. Je ne reviens pas spécifiquement dessus. Ce serait résumer à trop peu de choses l'échange qu'on avait eu. Mais pour les auditeurs, ils voient de quoi je parle et pourquoi ça fait écho avec ce que tu viens de dire.
Okay.
La force de l'équipe. Très rapidement, parce que je vois le temps qui file, mais je voudrais juste, t'as parlé de prendre du recul, mais en même temps, tu as dit que tu travaillais beaucoup, peut-être même un peu trop, en tout cas avec peu de limites entre le pro et le perso. En fait, on n'a qu'une vie et souvent tout est entremêlé. Mais je voudrais quand même savoir, dans le peu de temps que tu t'accordes à toi, hors boulot, ce que tu décides de faire de ton temps.
S'inspirer. Respirer.
Bon, c'est rien de... Ça va pas être supra-original, hein, mais en
je
gros,
dors.
Globalement... Non. Il y a du sport. Ça, on essaie de s'astreindre à du sport au moins 3 fois par semaine.
Tu fais quoi?
Alors, ça dépend chaque année, moi je change. Okay. Mais en ce moment, je joue au paddle.
Ok.
Voilà. Donc...
T'es bon?
Ouais.
Ouais. Ça se joue pas tout seul le paddle?
Non, ça se joue à 4. Mais il y a plein d'applis en plus qui permettent.
Ouais.
Donc j'ai un partenaire souvent assez régulier, mais si possible aussi, je peux jouer avec
des inconnus
ou des gens qu'on finit par connaître.
Ouais.
Mais il y a le paddle, avant il y a eu la boxe. Mais j'essaie de m'astreindre à ça parce que je pense que déjà ça fait du bien. Et puis
ça
permet de
libérer
plein de choses. Mon classique, le sport. Quoi. Et après, non, après, honnêtement, plus ça va, plus le temps, c'est ça et ma famille, quoi. On passe beaucoup de temps au bureau et ensuite effectivement j'ai des enfants, j'ai ma femme.
Quel héritage intellectuel, on parlera peut-être de vendre un jour Certidil mais c'est pas le sujet, non. Mais quel héritage intellectuel tu veux laisser à tes enfants?
Ils sont petits,
ouais.
Donc pour l'instant
t'y penses pas encore?
Non, j'y pense pas encore, mais j'y pense, j'essaye, mais c'est pas facile. J'essaye au maximum de les pousser pour l'instant simplement à lire. Donc j'essaie de les forcer à lire, ou en tout cas à lire des BD, mais d'essayer de passer du temps avec un bouquin dans les mains, un truc qu'ils ouvrent, parce que je pense que ça va être un enjeu, mais on en a déjà parlé. Et aujourd'hui, le sujet le plus important, c'est quand même la transmission de valeurs. Donc j'essaie que mes enfants soient généreux, qu'ils soient bienveillants, et surtout pour la grande qui a 8 ans, mais... Elle n'est pas grande et qu'elle considère que l'école c'est important. Voilà. Mais c'est surtout une question de valeur et de bienveillance. La bienveillance pour moi c'est le plus important pour mes enfants pour l'instant.
Avant de nous quitter, mon cher. Et là, je me dis quand même qu'on a été un peu con parce qu'on aurait aussi pu proposer à ton associé pour équilibrer un peu, parce qu'en fait, on bataille pour avoir plus de femmes entrepreneurs au micro. Notre technique, ça a été de dire, ce palmarès étant très masculin, on va demander aux entrepreneurs de choisir une femme qu'ils admirent et de nous la recommander. Mais c'est notre faute. Ouais. C'est notre faute. Donc, excuse-nous, Laure. Excusez-nous à tous les auditeurs, toutes les auditeurs. Auditrice. Mais en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir toi. Merci. Quand même. C'était un très bon moment. N'empêche que tu vas nous proposer une femme entrepreneur qu'on aura le plaisir de recevoir.
En femme entrepreneur aujourd'hui, c'est vrai que la CEO d'Appen,
ouais,
aujourd'hui, qui se retrouve sur un marché face à Tinder, face à Bubble, enfin, un marché monstrueux qui arrive dans une société qui a des problèmes.
Karima,
beaucoup de problèmes quand même.
Ouais.
Karima,
Ben Abdelmalek, pardon.
Bon, elle arrive à relancer la machine, elle fait un travail extraordinaire. Non, je pense que c'est quelqu'un que vous pouvez inviter.
Eh ben, tu vas me donner l'occasion de la retrouver, parce qu'on avait passé un petit moment sur scène à Vivatech il y a deux ans.
D'accord.
Vivatech qui, au passage, est depuis 3-4 semaines partenaire du format 40 nuances de Next. Donc, je les salue à toute l'équipe. Tu auras donc l'occasion de poser directement une question à Karima quand elle passera au micro de Solène Etienne, mon associé. Et je te propose de t'adresser directement à elle dans ce micro et de lui poser la question que tu veux. Pro, perso, marché, ce que tu veux.
Comment on fait aujourd'hui pour attaquer des monstres que sont justement les acteurs que je viens de citer et tirer son épingle du jeu?
Eh bien, cette question lui sera posée. Un immense merci à toi. Tu sais, il y a toujours un moment où, alors, j'imagine, tu ne vas pas te réveiller au milieu de la nuit, mais ça pourrait, en disant « Merde, j'ai pas dit ça à Thomas. » N'empêche que, là, on va, avant d'appuyer sur le bouton qui va lancer le générique de fin, qu'est-ce que tu aimerais dire que ça reste à la postérité?
À la postérité. Il faut continuer à créer des entreprises qui ont un impact, quel qu'il soit, et qui ont un impact, sans vouloir révolutionner le monde, qui ont un impact, quel qu'il soit, sur les gens, sur l'entourage, et sur les jeunes générations qui ont besoin de liens et d'insertion.
Ce coup-ci, c'est la bonne. Merci à toi, Johan. Merci pour votre écoute. 40 nuances de Next vous fait vivre chaque semaine les coulisses des plus grandes réussites de la tech française. Vous pouvez donc nous laisser des petites étoiles sur vos plateformes préférées ou un commentaire. Et bien sûr, vous abonner pour ne manquer aucun épisode.